J'ai déjà eu la sensation très étrange d'entendre ma voix il y a quelque temps. J'avoue que c'était assez perturbant quand on n'entend pas sa voix pendant 3 mois.
J'ai perdu ma voix, par Aurélien Tirard.
Au travail aujourd'hui, on reprend les assises au sol, la respiration et on travaille les résonateurs.
Ça marche.
Ça va?
Ouais.
Allez, on plie les genoux, on détend les genoux, on ouvre les côtes flottantes, on lâche les épaules, tourne la tête, les cervicales, on y va. Fais des petits. Monte.
Alors, est-ce que vous vous rappelez pourquoi, ce qui vous a amené ici, dans ce cabinet, la première fois que vous êtes venu?
En fait, j'avais donc développé un répertoire, enfin, un spectacle voilà, de type cabaret. Voilà. Et en fait, j'avais donc abordé différents registres, hein, style de musique, donc lyrique, plutôt. Enfin, voilà. Mais comme c'était sous style cabaret, je voulais trouver plein de couleurs différentes pour chaque morceau. Et en fait, j'y suis allée au feeling, tout ça. Et au bout d'un moment, je me suis rendu compte que comme il me manquait de la technique, ma voix, en fait, avait plus son accroche, l'accroche principale. Et ce qui a fait que du coup, j'avais un déséquilibre au niveau des pressions d'air et du coup, mes cordes vocales ne s'accolaient plus sur l'arrière des cordes vocales. Donc du coup, on a fait tout un travail pour réaccrocher la voix, retrouver les résonateurs et pouvoir varier quand même, trouver plein de couleurs sans qu'à chaque fois, je perde l'accroche, quoi, et le rapport avec l'équilibre des pressions, quoi. Voilà.
Le cri du karatéka qui casse les briques. Je fais toujours ça en fin de jour. Et ça m'a fait rire. C'est bien. Encore plus fort. Avec le plexus. Oui, fort. Encore. Encore. Ça fait rien. Encore un peu. Voilà. Parlez-moi.
Il n'a pas neigé aujourd'hui.
Voilà.
Ça fait 10 jours. J'ai commencé mardi de la semaine dernière à raison d'une séance par jour. De courtes séances de 5 à 10 minutes. Comme vous l'entendez ou vous ne l'entendez pas, j'ai perdu ma voix. C'est suite à une opération. Donc je sais que c'est dans l'ordre des choses qu'elles reviennent. Je sais que les cordes vocales ne sont pas, a priori en tout cas, touchées. Donc je devrais retrouver ma voix grâce aux exercices que je fais chaque jour avec Madame Fronsac.
Encore. Encore. C'est très facile aujourd'hui, là. Ça fait moins mal, hein. Il n'y a plus le petit... Non. Vous, ça fait mal? D'accord. Inspirez bien. Je pense que l'inflammation est partie. Pourquoi vous froncez?
Parce que c'est difficile de sortir. sortir le son.
D'accord, alors on ne le sort pas.
C'est horriblement frustrant, surtout que je suis très bavarde. Et ne pas avoir de voix complique forcément mon rapport aux autres, notamment le téléphone, puisqu'on m'entend très difficilement. Mes amis sont obligés d'être très très attentifs, d'une part, et moi ça me fatigue énormément parce que je suis obligée de pousser sur ma voix pour qu'il puisse y avoir un son. Forcément, je tends à éviter les discussions. Donc, sachant que je suis en arrêt depuis 3 mois suite à mon opération, je suis chez moi, donc forcément isolée des autres puisque je peux difficilement leur parler.
Alors, à la maison, on pousse.
Assise là, comme ça.
Ben ouais. Très bien. Et puis on soulève.
Vous le faites tellement mieux que moi.
Après, je mets la gorge. Ben oui. Voilà, très bien. Donc en fait, on fait des exercices de pushing. On simule le fait de soulever quelque chose de très lourd ou de pousser dans l'autre sens pour que les cordes vocales se rapprochent le plus possible. Cela fatigue beaucoup pour le moment encore. Je crois que la voix est une ennemie pour tout le monde, plus ou moins. Quand vous entendez votre voix enregistrée la première fois, vous la détestez. Quand on réalise ce qu'on donne à l'autre de sa voix, on est très angoissé par rapport à ce qui transparaît dans cette voix. Ensuite, la voix est une ennemie, doit être apprivoisée parce qu'elle peut lâcher. Elle peut lâcher sous le coup d'une fatigue, d'une émotion, de beaucoup de choses. Elle vous trahit dans tous les sens du terme. Elle vous trahit en s'absentant, elle vous trahit aussi en révélant des choses que vous ne penseriez jamais donner à l'autre.
Nixon et le Napalm ont beaucoup fait pour le rassemblement des relations américano-vietnamiennes. Je ne prononçais pas mot. Si je n'ai plus pu parler, je serais probablement devenu de fou. J'avais du mal. Ça veut dire que c'était quand même un bébé.
C'est tout à fait normal quand on sort de quelques semaines de coma. Oui, enfin, de... Comment vous appelez ça, vous?
De potage.
Dans le potage, ouais. Bon, comme vous voulez, hein.
Je ne sais plus comment j'ai recommencé à parler.
D'un coup, je sais que vous avez commencé à redire vers le mois de janvier quelques mots à votre femme. Et puis moi, ça a été un jour où j'étais malade et où je me suis décommandée. Et quand je suis revenue, vous m'avez dit d'un coup d'un seul, comment va votre santé? J'ai failli retomber dans les pommes. J'avais jamais entendu le moindre son. Ça a été la première phrase et puis... Après, vous tentiez de plus en plus en parlant tout le temps, tout le temps, tout le temps, en tout cas avec votre femme à la maison, de parler, même si on comprenait très peu, nous. Et puis après, j'ai très très vite, en une semaine, fait l'effort de vous comprendre pour pouvoir relancer. Et là, ça a commencé vraiment de manière verbale, on va dire. Et avant, quand il n'y avait pas du tout de langage, j'avais trouvé cette idée de communiquer par écrit.
C'est ça. Grand autobole des hospices civils premier prix à des pédateurs, deuxième prix ne panoplie de professeur éclairé, troisième prix, une assiette de coquillettes froides.
Ah ben c'est bien de vous voir sourire. Ça sort tout seul ou vous me montez les... vous me placez en aigu?
Ben, c'est sorti comme ça.
D'accord. Allez-y. Encore un peu.
C'est pas un matin, je me réveille et j'ai une voix, ça fonctionne pas comme ça. Voilà, après je sais que je vais retrouver ma voix, mais qu'à certains moments, lorsque je serai fatiguée, lorsque je serai stressée ou émue, je la perdrai de nouveau. Donc il va falloir un certain temps pour qu'elle se stabilise. Une fois que je l'aurai retrouvée, ce sera pas du jour au lendemain où je vais retrouver ma voix et je vais me redécouvrir avec une voix. Ça va revenir progressivement. Du coup, le choc sera probablement moins violent.
Qu'est-ce que c'est que cette voix trop forte? Pourquoi? Il y a la voix du deuil aussi. Les gens qui ne peuvent pas retrouver leur voix à la suite d'un deuil, c'est très, très, très fréquent. Et les gens me racontent toujours cette jolie histoire à laquelle je ne crois pas 3 secondes. C'est « j'ai pris froid à l'église le jour de l'enterrement ». C'est fou ce que j'ai eu de gens qui ont pris froid à l'église le jour d'un enterrement. En fait, ils n'arrivent pas à ressortir cette part de voix qui est resté avec le mort qui leur était très proche. Ils y ont laissé une part de leur voix.
Depuis 3 mois, j'ai quelque part un peu appris à vivre avec cette non-voix. J'arrive quand même à me faire comprendre. J'ai envie d'aller mieux. Alors ça passe aussi par la voix, mais c'est d'abord un état physique que je souhaite retrouver. A priori, au vu de la pathologie que j'ai, il n'y a pas de crainte à avoir sur le fait que je vais retrouver ma voix. Mais évidemment, lorsque je me suis réveillée de mon opération et que je n'avais plus de voix, c'est forcément une crainte que j'ai eue, surtout au-delà d'une semaine, parce que je savais qu'il était possible de perdre sa voix quelque temps, mais quand au bout d'une semaine, puis 2 semaines, puis 3 semaines, on n'a toujours pas retrouvé sa voix, il y a forcément une peur. Madame Fronsac a balayé complètement en m'expliquant que je retrouverais exactement la voix que j'avais avec ces différentes variations, autant ces aigus que ces graves.
Les hommes parlent en général plus fort et plus lentement que si j'étais mongolien sourd. Si jamais j'arrêtais de parler 3 jours, j'aurais de mal. Il n'y a plus d'automatisme du tout. Je dois préparer mes phrases avant de les dire. Je ne me passe pas de déconner d'ailleurs, mais au début, ça me fatiguait beaucoup. Maintenant, quand je parle longtemps, ça me fatigue encore un peu et je me force à employer des mots imprononçables.
Le langage est là, il est bien là, il est tout à fait construit, il n'y a plus aucun problème. Il faut bien savoir qu'au jour d'aujourd'hui, ce qui reste, le problème restant, est de l'ordre purement mécanique.
Je suis le spectre d'une rose que tu portes.
C'est terriblement grave. C'est au moins... On est descendu... On n'est jamais descendu.
Le spectre de la rose. Extrait des Nuits d'été de Berlioz. En fait, c'était le chant que j'ai amené quand j'ai commencé la rééducation. Quoi. C'était celui que je connais bien. Je connaissais bien, j'étais à l'aise. Et du coup, ça m'a permis de retrouver des repères que j'avais avant d'avoir ce problème de technique vocale, au fait.
Qu'est-ce que vous pourriez dire du travail accompli ?
Ah bah, c'est super, parce qu'en fait, dans les séances, ce qui m'a plu, c'était que vous ne me donniez pas forcément des exercices très précis à faire à chaque fois. Et j'ai pu retrouver, parce que avant, voilà, et avant de faire du chant, je faisais les choses beaucoup intuitivement, tout ça. Et en fait, c'était génial, parce que j'ai pu retrouver mon espace sonore. Enfin, je suis entière dans mon corps, quoi, maintenant.
C'est un handicap, mais j'ai le sentiment d'être entre de bonnes mains. Je ne me suis jamais posé la question du travail que j'allais faire avec elle, parce que je m'en remets complètement à elle. Je ne m'étais jamais posé la question de la voix. Avant de ne plus en avoir, je lui fais entièrement confiance et je me laisse complètement porter par les exercices qu'elle me fait faire.
Je m'abandonne complètement parce que j'ai complètement confiance en Madame Fransac. Non, mais c'est vrai, je suis... Oui, voilà, je suis... Il n'y a aucune barrière, aucun tabou, limite, enfin, voilà. Et ça, c'est très important parce que comme c'est... La voix, c'est vraiment quelque chose de très profond, ça touche à vraiment quelque chose de très sensible, je veux dire, il y a plein de choses qui s'y mettent. Et si en face, on n'a pas une écoute énorme, enfin, je veux dire, qui capte toutes les strates, finalement, de ce que porte une voix, hein, parce qu'il y a le corps, il y a l'esprit, il y a l'âme, il y a le psychologique, enfin, il y a plein de choses qui se mettent dans le son. Et du coup, ça, on a vraiment besoin de cette confiance-là. Et en même temps, bon, c'est une confiance meilleure, mais une écoute très, très, très large. Donc plus le thérapeute a une grande ouverture d'esprit, plus on peut...
Se laisser aller.
Voilà, et en plus se rééduquer profondément.
Et on inspire. Vous le faites à la maison ? Ça serait bien quand même.
Oui, mais les premières fois quand on a fait cet exercice.
Ah oui, ça vous tournait
la tête. Ça me tournait la tête, et du coup j'ai un peu fait
un blocage. Un petit peu.
J'ai découvert le pouvoir de ne pas avoir de voix qui est que les gens sont beaucoup plus gentils, me parlent beaucoup plus doucement. Parce que je suis quelqu'un qui a une voix assez forte. Donc je ne dégage évidemment pas du tout la même chose en n'ayant plus de voix. Je pense que je dégage beaucoup plus de... j'allais dire faiblesse, mais je ne sais pas si c'est douceur ou fragilité que je ne dégage peut-être pas quand j'ai ma voix.
Chaque voix est totalement unique. Chaque voix a des caractéristiques qu'on peut analyser et qui est totalement unique. Il n'y a jamais deux voix qui se ressemblent, hormis peut-être sur une courte période la voix d'une mère et de ses enfants. Les enfants reproduisent la voix maternelle qui les a bercés en premier, mais cela dure peu d'années, vers 10, 11, 12 ans, c'est en général terminé. Même si dans une même famille, vous retrouvez très souvent des accents de voix semblables. Vous avez des voix familiales, enfin un type de voix familiale. Mais chacun après se différencie profondément par ce qu'il est. Arrache en fait sa voix à cette voix maternelle.
En temps normal, en tout cas avant mon opération, j'étais quelqu'un de très dynamique et j'avais une voix dynamique. Et là je suis fatiguée et j'ai la voix qui est elle-même fatiguée. Elle correspond correspond à mon état physique. Donc je trouve que c'est assez cohérent, c'est-à-dire que je pense que j'accepte mieux mon état de faiblesse parce que ma voix est également faible. Je pense que si j'étais faible mais avec une voix forte, en tout cas je pense que pour mon entourage ce serait plus difficile à comprendre. Là quand on entend ma voix, on comprend que je suis faible. Donc je n'ai pas besoin de justifier mon état physique.
C'était J'ai perdu ma voix par Aurélien Tirard. Merci à Christine Fronsac, Anne-Cécile, Émilie. Merci à Christophe Deleu, à Pascal Doumange et aux étudiants de la spécialité radio 2010 du QEJ.